Voilà, donc, je répète que je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir apporter quelques pensées de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Je n'ai pas de PowerPoint, malheureusement, même si des personnes de mon âge réussissent à le faire. Je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à faire le PowerPoint. Donc, excusez-moi pour cette lacune, et je n'ai même pas donné le texte biblique, mais si, j'ai envoyé le texte biblique à Manu, mais enfin, on va le lire ensemble dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, et vous allez reconnaître que c'est là où Jésus, déjà âgé d'au moins un mois, est emmené au temple avec ses parents pour les rites de purification, etc. Luc 2, 25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Je vous invite à prier. Seigneur, devant ce texte qui nous parle de l'accomplissement de ta parole, qui nous parle de l'accomplissement d'une promesse faite à un homme d'un certain âge, dans la vieillesse, qui nous parle donc de la foi de Joseph et Marie, qui ont emmené cet enfant pour accomplir les rites qui étaient selon la loi de l'époque. Et je te remercie, Seigneur, pour ce passage, parce qu'il est riche. Et je prie, Seigneur, afin que tu m'aides. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes besoins, tu sais combien j'ai besoin de compter sur ton esprit ce matin pour pouvoir vraiment apporter cette parole. Et je prie, ô mon Dieu, que tu m'aides ce matin, mais que cette parole aussi puisse trouver un foyer, pour ainsi dire, dans le cœur de chacun ici. Nous sommes tous à des stades différents dans notre vie, dans notre expérience avec toi, ou peut-être pas avec toi, pas encore avec toi. Donc je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit ait son ministère parmi nous ce matin pour appliquer cette parole selon la situation et le besoin de chacun. Je te remercie, ô mon Seigneur, au nom de Jésus, le Christ, le Sauveur. Amen. Noël. C'est évident, nous fêtons Noël. Mais quelle est la première pensée qui vient dans votre esprit quand vous entendez ce mot? Donc, vous n'avez pas besoin de répondre à haute voix. Je ne cherche pas une réponse à haute voix. Mais, quelle est la première pensée? Noël, qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'étais enfant, Noël, c'était des cadeaux. Et c'est vrai. Nous associons cadeaux avec Noël parce que le genre de cadeau que nous trouvons n'était pas celui qui est joliment emballé, ce qu'on a vu tout à l'heure, sous le sapin. Mais c'est le cadeau que Dieu nous a fait, un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ. C'est ça le cadeau, le plus grand cadeau jamais offert. Le don de Dieu, le don de vie que Dieu nous donne en donnant son Fils. Mais en entendant le mot Noël, sans doute beaucoup pensent premièrement au salut que Dieu nous offre en envoyant Jésus pour être notre sauveur. Et c'est tout à fait juste aussi. C'est ce que les anges ont annoncé aux bergers. Il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et cela, c'est le plus merveilleux de tous les cadeaux, le salut en Christ. Mais ce matin, je voudrais insister sur un autre sens de Noël qu'on m'avait proposé pour ce message. Mais un sens de Noël qui, lui aussi, est très important, mais auquel on ne pense pas toujours. Car Noël, c'est la fidélité de Dieu révélée à nous. La fidélité de Dieu révélée à nous. Paul dit dans Galates 4, versets 4 et 5, « Lorsque les temps furent accomplis, c'est-à-dire lorsque le bon moment est venu, Dieu a envoyé son Fils afin de nous racheter. » Ça veut dire de nous faire les siens. La promesse de Dieu fut alors accomplie et au moment voulu par Dieu. J'ai appris à travers les années que le moment de Dieu est le meilleur moment. Vous savez, il faut du temps, je crois, en cheminant avec le Seigneur pour comprendre l'importance du bon moment. Et le 17 juin, pour ne pas trop insister là-dessus, quand le Seigneur est venu prendre Joyce avec lui, je suis absolument convaincu que c'était le bon moment. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais je suis convaincu qu'il a pris ma femme exactement quand il fallait. Parce que j'ai appris une autre chose aussi dans ma vie avec le Seigneur. C'est ce que Dieu ne se trompe jamais quand nous le suivons. Nous nous trompons. Nous obligeons Dieu peut-être de faire des choses qu'il n'aurait pas fait si nous avions été obéissantes et fidèles. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et je le crois fermement. Oui, Dieu a montré son immense fidélité en envoyant son Fils au moment propice. Il a envoyé son Messie ou Christ, tant attendu par son peuple depuis des siècles, voire des millénaires. Il a envoyé le seul sacrifice efficace pour pardonner les péchés de tous les peuples, pour nous donner la possibilité d'avoir la vie éternelle avec lui et une vie de bonheur et de plénitude sur terre. Je voudrais aborder brièvement ce matin comment la fidélité de Dieu s'est révélée de trois manières différentes. Car Dieu ne manque jamais à sa parole, mais sa façon de manifester sa parole et sa promesse peut différer d'un chrétien à un autre. Tout d'abord, Noël, c'est la fidélité de Dieu révélée à Siméon. Siméon. Alors, qui est Siméon? Nous venons de le lire. Nous avons lu dans Luc que c'est un homme juste et pieux qui attendait la consolation, on peut sous-entendre le Messie, le Dieu, la consolation d'Israël. Luc indique aussi que Siméon était rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, tout croyant, je crois, possède le Saint-Esprit en lui-même. Mais par nos offenses, nos péchés et nos manquements, nous pouvons donc attrister le Saint-Esprit, rendre inefficace sa présence en nous, l'empêcher d'agir. Mais apparemment, ce n'était pas le cas avec Siméon parce qu'il était rempli de l'Esprit au point où l'Esprit lui a dit quelque chose d'absolument incroyable et merveilleux. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, a dit à Siméon quelque chose qu'il n'avait apparemment dit à personne d'autre avant l'annonce à à Marie et à, aussi à Joseph par l'ange. Mais il a dit à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Christ promis par Dieu à son peuple. Je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que personne d'autre n'ait jamais eu cette promesse. Tu ne mourras pas avant de voir toi-même de tes propres yeux mon salut, le Messie, tant attendu par son peuple. Et c'est le Saint-Esprit qui a poussé Siméon au temple, précisément quand les parents de Jésus l'ont apporté pour le sacrifice habituel à l'occasion d'une naissance. Siméon a pris ce petit bébé, probablement, je pense que d'après la loi, devait avoir 33 jours. Il a pris dans ses bras et a glorifié Dieu en disant les paroles que nous lisons dans Luc, au verset 29 et 33, je vais les relire. « Maintenant, Maître, que tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière, nous avons chanté ça ce matin, lumière pour éclairer les nations. » Et gloire de ton peuple Israël. Un Messie qui n'est pas réservé au peuple d'Israël, mais est destiné à être la lumière de toutes les nations. Et là, Siméon, le vieux, peut-être même plus âgé que moi, je ne sais pas. Et là, il tient dans ses bras le salut de Dieu. Dieu a retenu la promesse qu'il avait faite à Siméon, qu'avant de mourir, il verrait le Messie, le Christ. Oui, Dieu a révélé sa fidélité. Il a été fidèle envers Siméon. Mais Noël, ce n'est pas simplement la fidélité de Dieu révélée à Siméon, c'est aussi la fidélité de Dieu révélée à son peuple Israël. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a répété de différentes manières, mais dans différentes situations, qu'il allait envoyer un sauveur, le Messie, pour délivrer son peuple. Les détails concernant la venue et la personne du Messie étaient au début extrêmement vagues et pendant très longtemps assez vagues pour ne pas donner une idée précise de ce que serait ce Messie qui allait venir. Mais peu à peu, à travers les siècles, l'annonce des prophètes devenait de plus en plus claire. La première promesse, et on en a fait allusion ce matin, la première promesse de Dieu remonte très, très loin au moment de nos premiers parents, où nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le péché de la désobéissance. Et avant de les chasser du beau jardin d'Éden, dont on a parlé ce matin, Dieu a promis qu'un jour, un descendant d'Ève allait venir et tuer le serpent, c'est-à-dire Satan. Dans Genèse 3:15, Dieu parle au serpent, à Satan, et il dit: « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme t'écrasera la tête, ça veut dire lui donnera une blessure mortelle, et tu lui blesseras le talon, ça veut dire une petite blessure dont il allait se remettre, le Messie. » Certainement, Ève et Adam n'avaient aucune idée de l'importance et du résultat de cette promesse de Dieu. Là, c'est un fragment de l'Évangile. Il annonce que quelqu'un va venir dans la descendance de la femme pour écraser la tête du serpent de Satan. Ce qui est arrivé à la croix et lors de la résurrection de Jésus. La puissance de Satan a été cassée, même si Dieu lui permet de nos jours de continuer une certaine activité. Mais il est déjà condamné, il est déjà mort. Alors ne vivions plus pour lui, ne laissions plus le tentateur venir dans notre vie. Nous avons là un fragment de l'Évangile annoncé déjà dans le troisième chapitre de la Bible. Déjà, Genèse 3. Ensuite, bien des siècles plus tard, Dieu a fait une promesse plus claire à Abraham, le père des Juifs. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays pour habiter Canaan, il lui a promis que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui par sa descendance. Je ne vais peut-être pas lire ce passage, j'avais prévu de le faire, mais vous connaissez peut-être, il a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays où je t'emmène. Et Abraham ne savait pas où il allait, il a suivi Dieu jusqu'à ce que Dieu dise, voilà, tu es là. Et il a dit, en toi, en ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. La promesse de Dieu commençait à devenir plus claire. Abraham aura un descendant qui serait une bénédiction pour tous, pas simplement pour les Juifs, mais pour toutes les familles de la terre. Quand David est devenu roi, Dieu lui a promis que son trône durerait à jamais. Référence, si vous voulez, 2 Samuel 7, 13 à 16. Et je ne lirai pas le passage, mais simplement, il a promis à David que son règne allait continuer jusque dans l'éternité. Là, ce n'était toujours pas si clair que ça. Qui serait cette personne? Pourquoi durer dans l'éternité? Mais David l'a accepté. Il a pris. Dans Ésaïe 9, versets 6 et 7, le prophète confirme que le règne de David sera assuré éternellement par le Messie. Et je pense que c'est le texte du message de Paul il y a 15 jours, dans Ésaïe 9, versets 5 et 6. Je vais relire ces versets. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Ésaïe confirme qu'un jour la promesse de David va s'accomplir par le Christ, le Messie. Vous voyez comment ça devient encore plus clair maintenant, de plus en plus clair, tant qu'on avance dans la lecture de l'Ancien Testament. Ésaïe 53 annonce clairement que son serviteur, le Messie, devra souffrir et mourir pour le pardon des péchés de son peuple. Je vais lire juste trois versets de Ésaïe 53, versets 4, 5 et 6. Et ça annonce clairement la souffrance du Messie, ce que les Juifs avaient du mal à comprendre, et encore aujourd'hui. Mais certains le croient aujourd'hui et ont accepté le Messie comme leur Seigneur et Sauveur. Mais voici ce que Ésaïe a dit quelques 7 ou 8 siècles avant la crucifixion de Jésus. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et c'est accompli le jour où Jésus est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Il y avait maintes autres promesses d'un Messie faite par les prophètes. Mais un jour, bien des années plus tard, un ange a visité des bergers à Bethléem pour annoncer que le Sauveur, le Messie, le Christ, le Seigneur, tant attendu, est né. C'est dans Luc 2, versets 4 à 14, je lirai juste les versets 10 et 11. L'ange leur dit, parce que évidemment les bergers, ils étaient « Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a une lumière, il y a un personnage, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et l'ange dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Mais pas n'importe quel sauveur, c'est le Christ, le Seigneur, le Messie, autrement dit. Et quand les bergers ont entendu ça, ils ont dit, quoi? Nous sommes témoins de la venue du Messie que nous attendons depuis si longtemps. Et ils sont allés voir. Et dans le texte biblique, ils ne sont pas allés voir si c'est vrai. Ils sont allés voir ceux qu'ils ont cru de l'ange. Ils ont accepté la parole de l'ange et ils sont allés voir pour eux-mêmes. Mais pas pour constater, ils croyaient déjà. Comme nous avons vu, il a confirmé cette naissance à Siméon et à d'autres. Il y a bien d'autres promesses de la venue du Christ, trop nombreux pour lire ce matin. Comme Paul a dit tout à l'heure, là, il faudrait toute la journée pour lire toutes ces promesses dans la Bible. Mais toutes sont accomplies par la venue de Jésus. Oui, Dieu a encore révélé sa fidélité. Dieu a été fidèle envers son peuple, Israël. Et finalement, Noël, c'est la fidélité de Dieu révélée à nous, son peuple, aujourd'hui. Jésus, Sauveur et Seigneur, n'est pas réservé au seul peuple d'Israël, nous l'avons vu. Une lumière pour toutes les nations. Jésus lui-même a dit, et quel est le verset le plus connu de toute la Bible? Qui en dessous de 12 ans, est-ce que vous avez en dessous de 12 ans? Non, pas. Qui peut me dire le verset le plus connu de toute la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit, afin que quiconque croit, cette personne recevoir la vie éternelle. Donc la promesse faite à Abraham s'est accomplie. Toutes les nations de la terre sont bénis par Jésus, la postérité d'Abraham quant à son humanité. Les promesses faites par les prophètes pendant si longtemps sont pour nous aussi. Dieu a révélé sa fidélité. Il est fidèle pour tenir sa promesse envers tous les peuples. Mais pour bénéficier de la promesse de Dieu, nous devons nous repentir de nos péchés et recevoir Jésus, le Messie, le Christ, comme notre propre Seigneur et Sauveur. Nous devons nous engager à le suivre fidèlement, car Dieu a été fidèle envers nous. Ce matin, j'ai vu des enfants venir et ils ont reçu des cadeaux. Bon, c'est vrai qu'ils ont contribué quand même aux enfants qui sont parrainés par les enfants, c'est vrai. Mais on leur a donné un cadeau gratuitement. Ça, c'est la grâce. Ils n'ont rien fait pour mériter ce cadeau. Ils n'ont rien fait pour payer ce cadeau. On leur a fait un cadeau. Et ils l'ont accepté. Et Dieu nous a fait un cadeau en Jésus-Christ. Il nous a fait le don de la vie éternelle, pas simplement dans l'avenir, mais une vie qui commence aujourd'hui dans la joie et dans le bonheur, dans la plénitude, la présence de Dieu en nous. faut pas attendre l'au-delà pour avoir la vie éternelle. Ça commence maintenant. Et Dieu nous offre cela. On ne peut pas le payer. On ne peut pas mériter. Dieu nous offre cela par sa grâce. Et nous le recevons par la foi. La foi, c'est comme ces enfants qui ont tendu la main pour recevoir le cadeau. C'est ça la foi, c'est tendre la main et recevoir le cadeau de Dieu. La fidélité de Dieu envers nous doit susciter quatre réponses de notre part. D'abord, accepter le don de Dieu, recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et nous engager à le suivre. Accepter. Tendre la main et prendre le don de Dieu. Mais ça implique aussi de quitter notre vie de péché, parce que Dieu veut, il nous pardonne nos péchés. Et ce n'est pas pour recommencer demain, hein, de faire les mêmes choses. Eh bien, on peut tomber dedans, oui, c'est vrai, mais le désir de Dieu, c'est d'abandonner cette vie et de prendre la vie que lui, il nous donne. Accepter le don de Dieu. La deuxième réponse de notre part, c'est vivre chaque jour dans la reconnaissance et dans la croissance de la maturité en Christ. Troisième réponse de notre part, c'est de vivre pour le glorifier. Vous savez, c'est le but principal de l'enfant de Dieu, c'est de glorifier Dieu. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas ça. Ils pensent à une chose ou une autre, une troisième, je ne sais pas. Mais Dieu dit, ce que je vous demande avant tout, c'est de vivre pour me glorifier. Et ça, c'est un gros morceau. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec une jeune de 15, 10, 16 ans, je ne sais pas, qui aspire à écrire. Et elle m'a dit, je pense que Dieu m'a donné le don d'écrire. Et moi, je veux lui rendre ce don pour le glorifier. Alors, si un enfant de 15 à 16 ans, jeune, de 15 ou 16 ans, peut dire cela, tous, nous pouvons le dire. J'ai envie de prendre la vie que Dieu m'a donnée pour le glorifier. Et puis la quatrième réponse de notre part, c'est partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Partager. On n'a pas besoin d'évangéliser, de prendre la Bible et aller essayer de remplir les gens de versets bibliques. D'abord, il faut vivre comme un chrétien. Si vous vivez comme un chrétien, croyez-moi, vous allez vous distinguer parmi les autres. Mais il y a une bonne façon de vivre la vie chrétienne et une mauvaise. On a vivé sainement pour honorer et glorifier Dieu. Et votre conduite sera remarquée dans ce monde où tout semble détraqué de nos jours. Vu tout ce que Dieu a fait pour nous, ces quatre réponses, accepter le don de Dieu, vivre chaque jour dans la reconnaissance et la croissance en Christ, vivre pour le glorifier, partager de bonnes nouvelles autour de vous. Ces quatre réponses sont une réponse normale de notre part. Et le résultat, Dieu tiendra sa parole. Et vous connaîtrez la fidélité de Dieu révélée chaque jour dans votre vie et de bien des manières. Nous sommes, Joyce et moi, nous sommes venu en France au début de l'année 1965, 6 mois après notre mariage. Le ministère n'a pas toujours été facile avec moi, mais j'ai eu avec moi un serviteur de Dieu qui est devenu légendaire, il s'appelle Hugh Collins. Vous connaissez ce nom? Oui. Et on a travaillé ensemble pendant 3 ans à Villiers-le-Bel. Et lui, c'était un bon évangéliste, il a emmené les gens, et moi, je faisais la suite, l'aspect pastoral de ce ministère. Et une église est née, par la puissance de Dieu, et non pas grâce au don des hommes. Une Église qui est toujours là, qui est toujours puissante. Et à travers les années, Joyce et moi avons appris ce que c'est que la fidélité de Dieu. Là encore, si je commençais à vous en parler, on serait là toute la journée. Mais simplement, acceptez ma parole. Dieu a été fidèle envers Joyce et envers moi, envers notre couple, et par la suite envers nos enfants qui le suivent aussi, et envers nos petits-enfants qui le suivent aujourd'hui. C'est une grâce parce que ça n'arrive pas toujours comme ça, mais Dieu nous a bénis. Et nous avons compris que Dieu, le Dieu que nous adorons, s'est révélé dans sa fidélité envers nous. Quelle est votre réponse à la fidélité de Dieu? À ce Noël 2019, si vous n'avez pas encore, l'avez pas encore fait, acceptez le don de Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour nous tous, vivez pour glorifier Dieu. Et vous verrez de jour en jour dans votre vie de tant de manières que notre Dieu est le Dieu fidèle qui a tenu sa promesse et qui a révélé sa vérité envers nous en envoyant son Fils Jésus-Christ. Que ce soit le cas pour vous aujourd'hui, que vous connaissiez bien, que vous expérimentiez ce don de Dieu. Amen.